Tout le monde est là? Non, normalement.
Non, mais il n'y a pas des gens qui le regardent. Il y a des gens qui le regardent.
Alors, jusqu'à maintenant, oui. Maintenant, je pense que ça sera enregistré et puis après.
Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on a la séance sur la canopée des Halles avec Monsieur Cotte. Je vais le laisser se présenter peut-être plus en détail. Je vais juste faire un petit rappel par rapport à la séance d'aujourd'hui. Donc après la conférence, on va aller à la canopée des Halles. Vous verrez sous tous les mails. Donc on se verra entre la canopée et les jardins, ces côtés-là, à 5 heures. Donc, s'il vous plaît, n'arrivez pas en retard parce qu'après, on a quelques minutes pour donner tous les matériels, les audio guides. Suzanne Léonard, elle est par ici? Ah, super. Vous allez m'aider, du coup? Merci. Alors, juste aussi un rappel par rapport les choix du livre, dont on avait dit au début que ce serait aujourd'hui la date limite pour choisir. Aujourd'hui, on va mettre en ligne un fichier Excel, je pense. C'est ma collègue Laurie qui est en train de préparer tout ça, pour que vous puissiez remplir la fiche avec l'auteur, les titres. Si c'est un livre qui est hors la bibliographie qu'on vous a donnée, vous pourrez aussi mettre en quelques lignes pourquoi vous avez choisi ces livres, en quoi c'est intéressant, voilà. Et n'oubliez pas aussi que sur la plateforme EducNet, il y a toujours les supports des cours, les présentations et aussi les vidéos qui sont enregistrés pour ceux qui ne peuvent pas être ici. Évidemment, la visite ne peut pas être enregistrée, mais au moins la conférence, vous l'avez. Et par rapport à l'exercice du groupe, on va maintenir les groupes de 3 personnes. J'ai dit ça parce qu'on nous a déjà posé la question de faire 4 ou 2. On va maintenir 3. Vous êtes 66 et on trouve aussi que c'est le numéro parfait pour aboutir ces travaux. Bon, je vous laisse... je vais laisser la parole à Alexandre.
Bonjour. Donc, je vais vous présenter le projet de la canopée. Donc, je me présente. Donc, je suis Alexandre Cotte. Je suis ingénieur structure. Et voilà. Et en fait, la particularité, disons, peut-être, je suis un ingénieur normal, c'est-à-dire que je fais tous les matériaux. Vous verrez qu'en fait, vous avez éventuellement des spécialisations en béton, en charpente, en bois, en des tas de choses. Mais en fait, tout ça, ça revient à de la résistance des matériaux à un moment donné et des connaissances spécifiques du comportement de tel ou tel matériau avec des manières de concevoir les assemblages ou concevoir le projet. Et donc, moi, je suis spécialisé en rien et généraliste en tout. Donc, l'idée, alors peut-être ça, vous l'avez peut-être vu, c'est en fait une ingénierie. Je travaillais chez RFR et chez Arup avec Peter Rice, où en fait l'objectif souvent c'était de choisir un matériau et à partir du matériau faire avec l'architecte la forme architecturale. Donc très souvent il y a des projets. Peter Rice travaillait beaucoup avec Renzo Piano et donc souvent ça consistait à choisir un matériau. Alors le matériau c'était du ferrociment pour la galerie du Ménil. Donc c'est du ferrociment, c'est du ciment avec à l'intérieur des aciers fins, ou alors du granit pour Padre Pio, faire des structures en granit, ou alors plus traditionnellement, des matériaux plus traditionnels, qui peuvent être l'acier ou le béton. Et donc là, en fait, ce qui j'ai travaillé donc sur la canopée, et un des éléments qui est intéressant, donc je vais commencer par présenter à peu près l'idée générale du projet, au niveau du concours et de l'histoire du concours et du projet, pour ensuite se concentrer un peu sur le projet et partir après sur les questions peut-être plus techniques. Voilà. Donc là, vous avez un peu près l'historique des Halles de Paris. Donc je vais aller un peu vite là-dessus. Mais au début, c'était le ventre de Paris, et c'est là où se passaient en fait tous les échanges, ce qui était Rungis aujourd'hui. Ben, pour ceux qui ne connaissent pas, les échanges, l'alimentation de tout Paris se faisait par le cœur, par les Halles, et ensuite était distribuée dans tout Paris. Et c'était le projet, à l'origine le ventre de Paris. Ensuite, dans les années 60, il y avait les pavillons Baltard qui avaient été construits au 19e siècle, qui ont été, il y avait le projet de les démolir pour aller déplacer le marché vers Rungis. Je ne sais pas si vous connaissez, Rungis, c'est la plateforme logistique d'alimentation d'une grande partie de la France et en tout cas de toute la région parisienne, qui se trouve près d'Orly. Et donc c'était en fait les Halles de Paris, donc c'était ce carré que l'on voit ici, toute cette zone ici, qui a été déplacée vers Rungis. Et en fait, ça a été très décrié parce que c'était une sorte de monument historique. Et à l'époque, dans les années 60, en fait, c'était considéré comme des bâtiments à démolir. Il en reste un qui n'a pas été démoli, qui est le pavillon Baltard, qui se trouve à Nogent-sur-Marne. C'est un des pavillons des Halles de Paris qui n'a pas été démoli. Donc, en 73, il y a le projet de faire les Halles de Paris. Et donc, il y a eu ce qu'on a appelé le trou des Halles. Donc, c'était en fait, vous voyez ici l'église Saint-Eustache. Et en fait, tout cet ensemble-là, c'était en fait le trou que l'on voyait. C'était l'ensemble de tous ces bâtiments qui avaient été démolis. Et un trou qui a été réalisé, un déterrassement, pour faire passer en particulier le RER. Donc je vous montrerai après les contraintes qui ont été des contraintes importantes sur la conception des Halles, bien sûr, et sur la conception de la canopée de l'ouvrage que l'on va mettre en remplacement des Halles. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est, donc ça c'est un projet des années 70, ou plutôt 73. Et ce projet a été fait, donc c'était un projet de... Les verrières étaient faites par Claude Vasconi. Et exactement en même temps était fait le centre Pompidou qui était juste à côté, que vous connaissez. Et lorsque ça a été... les deux ont été à peu près inaugurés en même temps, sous Pompidou, centre Pompidou. Et en fait, les deux projets étaient regardés en parallèle. Et si vous allez sur YouTube ou sur les choses, ou si vous regardez les nouvelles de l'époque, le centre Pompidou était considéré comme un bâtiment éphémère, comme une usine, comme une raffinerie de pétrole qui allait disparaître. Le projet pérenne à l'époque, c'était les Halles, c'était ce projet-là. Et en fait, l'histoire a donné que le projet des Halles, par sa naissance, qui était en fait qui naissait de la destruction des pavillons Baltard du cœur de Paris, a eu une mauvaise presse et une mauvaise réception des Parisiens jusqu'à sa transformation récente. Et c'était vraiment un bâtiment très décrié pendant 40 ans. Après, là-dessus, il y avait aussi une opposition vis-à-vis du centre Pompidou et du traitement de l'art d'un côté, dans le centre Pompidou, donc c'était les années 60, c'était l'art pour tous, donc c'était l'usine de l'art, et les Halles de Paris, le Forum des Halles, qui était un centre commercial. Oui. Oui. Alors, la vraie nécessité, alors on va le voir, donc ça c'était le projet, il y a eu un projet donc pour adapter et refaire à la fois le Forum des Halles, le Centre des Halles et les jardins alentours. Et il y avait un concours qui a été gagné par Mangin, un architecte urbaniste. Et ce qui était intéressant, parce qu'en fait, malheureusement pour lui, en fait, il a gagné. Et ensuite, il y a eu des levées de boucliers autour et il a été obligé de... Il a fait le jardin, qui est très, très beau. Mais il a dû céder la place pour faire un concours pour le projet des bâtiments, sur lequel Patrick Berger a été lauréat. Et ce qui était très intéressant, on a rencontré, moi j'étais dans l'équipe avec Patrick Berger comme ingénieur, on a rencontré Mangin qui nous a expliqué qu'un des problèmes, c'est que c'est un problème de vieillissement de la population, de vieillissement des bobos. C'est-à-dire qu'au début, lorsque les Halles, lorsque les pavillons Baltard ont été démolis, lorsqu'il y a eu le trou des Halles, je vous invite, si vous avez l'occasion, de regarder un film qui s'appelle Touche pas à la femme blanche, qui est un film des années 60, c'est un film de cow-boy des années 60 qui se passe dans le trou des Halles. C'est un film un peu surréaliste. Et donc, en fait, toutes les Halles étaient, tous les halles, l'environnement des halles était un endroit populaire malfaisant où tous les gens, les artistes, etc., ont voulu s'installer parce que c'était pas cher. C'est comme si aujourd'hui on allait à la Goutte d'Or. Et en fait, ces gens-là, dans les années 60, étaient des jeunes artistes. Dans les années 80, ils devenaient des vieux grincheux. Et une des difficultés qu'il y avait, je vous montrerai plus tard, c'est que le Châtelet-Léal, c'est un hub, c'est un centre de névralgique de circulation à Paris. Tous les RER arrivent aux Halles, c'est le nœud de transport et de circulation de Paris. Et ce que Bangin avait, l'architecte urbaniste avait identifié, c'est qu'en fait, il y avait une vie qui se passait dans les Halles, qui étaient les gens, ils changeaient de RER, de métro, où ils allaient au centre commercial, mais aucune de ces personnes n'était en contact avec l'extérieur. C'est-à-dire que le projet de initial de Vascody, il faut que je le mette plus proche. Dedans, ok. Ah, pardon. Le projet initial de Vasconi ne permettait pas vraiment, contrairement à cette rampe qui l'indique, à mettre en communication la gare de Châtelet-Léal qui est dessous, là, et le centre commercial avec l'extérieur. En fait, cette rampe était condamnée pendant très longtemps pour des raisons de sécurité. Et en fait, il n'y avait pas de communication entre les gens qui étaient à l'intérieur et la vie à l'extérieur. Et donc, le projet de Mangin consistait à faire une nouvelle porte à Paris, comme une porte, le port de Pantin, porte de la Villette, toutes les portes autour de Paris, mais faire une porte qui naisse au cœur de Paris, c'est-à-dire que les gens viennent en RER et sortent de Paris. Et c'était une manière de joindre le cœur de Paris avec la banlieue. Mangin interprète, il y a eu une levée de boucliers, parce que à l'époque, le jardin des Halles était malfamé. Il y avait du trafic de drogue, c'était un peu malfamé. Et les gens surtout avaient peur que tous les gens qui viennent de banlieue sortent. Ben, ça, c'est l'explication que nous a donné Mangin. Les riverains avaient peur que toute la plèbe qui vient de banlieue vienne en fait bouleverser ces gens qui s'étaient embourgeoisés au cœur de Paris. Et alors que ces gens même, à l'origine, étaient venus parce que c'était des artistes, c'était pas cher, etc. Et donc, la manière dont Mangin, l'architecte, a perçu ça, c'est une levée de bouclier, parce qu'en fait, les riverains voulaient garder leur petit jardin pour eux et voulaient surtout pas que les gens de banlieue viennent débouler dans leur jardin. Et donc, il y a eu une levée de bouclier contre lui, il y a eu des pétitions, etc. Et donc, nous, je l'ai rencontré au début du projet des Halles et il était assez, disons, blessé de cette relation qu'il avait eue avec l'environnement. Et donc, ça a donné... Attendez, hop. Donc, je reviens dessus. Donc, ça a donné lieu à un projet. Et en fait, ce projet a été tout à fait conforme à la conception initiale de Mangin. Vous êtes peut-être allé sur place et on ira tout à l'heure sur place. Qui liaisonne vraiment le forum, le centre commercial, le nœud de circulation de toutes les circulations des métros et des RER dessous, avec l'extérieur et le jardin. Donc ça, le jardin aujourd'hui, c'est le jardin de Mangin. Donc en fait, excusez-moi. Donc c'est une présentation dynamique, donc c'est un peu particulier. Donc les Halles se trouvent au centre de Paris. Excusez-moi, je vais peut-être trop vite. Donc ça, c'est l'ancien Forum des Halles. Et l'ensemble du quartier fait tout ça. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est que y a des parties à mettre en liaison. Le jardin, les trémies. Donc ça, c'est toutes les trémies, les circulations de voitures qui sont sous la terre, qui sont en sous-sol. Le RER. Il y a aussi une particularité, c'est que le RER, il a une inclinaison, il n'est pas orthonormé comme les routes, ce qui fait que lorsque vous êtes, maintenant beaucoup moins, mais lorsque vous êtes dans le RER, vous ne savez plus où se trouve le nord, le sud, on est perdu. Moi, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quand on sort dans les Halles, on ne sait jamais vraiment où se trouve la sortie, c'est qu'on est vraiment perdu en orientation. Et la raison de ça, c'est que le, l'inclinaison des voies ferrées et n'est pas dans le sens du quartier, des rues. Ensuite, il y a le forum au-dessus et tous ces éléments-là se superposent. Et donc ça, c'est un dessin de l'époque, donc des années 70, qui montre la superposition des circuits. Et ensuite, aussi, donc ça, c'est la superposition des différents niveaux donc que l'on voit. Ici, c'est la salle d'échange. C'est au-dessus des voies ferrées. Qui est un truc très intéressant, d'ailleurs, qui a été pensé par des ingénieurs à l'époque. On l'appelle le flipper. Les gens de la RATP l'appellent le flipper. C'est qu'en fait, afin de limiter les conflits de circuit des gens qui vont aller d'un quai vers un autre, les gens qui vont d'un autre quai vers un autre et se croiser, les ingénieurs à l'époque ont établi qu'il fallait briser les flux et donc mettre à l'intérieur de la salle d'échange des îlots pour briser les flux. Donc alors, aujourd'hui, c'est un peu plus clair qu'à l'époque, mais à l'époque, et même aujourd'hui, quand vous sortez du RER et vous allez quelque part, il y a toujours des obstacles partout. Vous devez les contourner par la droite, par la gauche, etc. Et l'objectif, c'est d'éviter qu'il y a tout d'un coup 500 personnes qui se suivent pendant que 500 autres se suivent dans l'autre et essayer de faire que tout le monde se mélange de manière harmonieuse. Le résultat, c'est qu'une fois que vous êtes là-dedans, vous êtes incapable de savoir où se trouve votre destination. Donc ça marche. Ça brise les flux, mais du coup, sauf si vous avez l'habitude de passer tous les jours, vous ne savez plus où vous êtes. Donc ça, c'était la salle d'échange. Donc je vais en arrière. Donc les quais. Donc ça, c'est le niveau le plus bas, c'est les quais inclinés. Au-dessus, la salle d'échange avec un parking, le nouveau forum et l'ancien forum qui commence. Ensuite, au-dessus, j'étais trop vite. Au-dessus, il y a la place basse. Et il y a le centre commercial, l'ancien et le nouveau forum. Le nouveau forum fait par chez Metoff. Et ensuite, il y a les circulations au-dessus, les voies souterraines qui passent. Et en fait, en-dessus, encore le centre commercial et d'autres circulations. Et finalement, à l'extérieur, donc là, on est à l'extérieur, les bâtiments en émergence et le jardin. Donc ça, ça donne, donc, sur deux niveaux, donc ça fait en fait une sorte de plat de nouilles en trois dimensions, enfin, comme tous les plats de nouilles, avec des superpositions de fonctions différentes et des contraintes qui se superposent. Donc en fait, ça, c'était un élément clé du projet, parce que quand vous allez mettre un bâtiment au-dessus d'un plat de nouilles, il faut être sûr de où vous mettez les pieds. Et ça a obligé à concevoir le bâtiment pour ça et faire des adaptations spécifiques. Donc ça, c'est des images de la superposition des flux. Donc ça, c'était bon. Voilà. Ensuite, la particularité, c'était c'est un centre commercial où il y a un trafic énorme. Il y avait 10 à 15% du PIB français passe par les Halles tous les matins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce qu'il racontait, c'est-à-dire que il y a tellement de personnes qui passent, donc il y a 850 000 voyageurs par jour qui passent, ces 850 000 voyageurs, ils vont ensuite aller travailler dans toutes les entreprises autour, et si jamais ces 850 000 voyageurs vous les congelez, en fait, ils représentent un pourcentage économique très important. Donc il était hors de question de suspendre le trafic. Donc ça, c'était la partie au niveau de la conception générale. Au niveau un niveau un peu plus pratique, il y a le centre commercial qui était un des plus grands centres commerciaux d'Europe et qui a négocié très fortement les contraintes de chantier. En gros, le centre commercial ne devait pas perdre un sou pendant le chantier, alors que l'on construisait un bâtiment au-dessus. Et a dû aussi négocier d'optimiser le centre commercial de la meilleure manière possible. Par exemple, il y a un bon nombre, mais bon, c'est peut-être une très bonne chose, hein. Il y a un bon nombre de boutiques qui sont au rez-de-chaussée, qui au départ n'étaient pas prévues. mais au gré des négociations, ou pour pas dire des relations de force entre le centre commercial et la ville de Paris, ou la SEM qui s'est organisée, la société d'économie qui s'est organisée pour créer la canopée, ils ont demandé d'avoir un accès, avoir des boutiques au rez-de-chaussée, ce qui est tout à fait légitime. Et accessoirement, quand on a fait des travaux, le jour, parce qu'on devait démolir des dalles, le jour où le BRH, c'est un espèce de super matopiqueur sur un camion, lorsque le BRH est rentré chez H&M, ça posait quelques problèmes. Voilà. Donc c'est un environnement très contraint et effectivement qui ne se termine jamais. Donc je ne sais pas si après on a peut-être le plan de séquence d'arrivée des camions, mais aussi vous voyez si vous allez au Hall, c'est que des petites rues. Il y a juste le boulevard de Sébastopol qui passe à côté, mais tout le reste c'est des toutes petites rues. Et donc tous les camions qui passaient par là pour amener les morceaux de la canopée, pour amener le béton, pour amener etc. devaient être gérés d'une manière extrêmement fine parce qu'en fait on pouvait pas faire d'embouteillage dans le quartier des Halles. À l'époque, la rue de Rivoli était en fonctionnement et donc les camions étaient stockés sur les quais devant le Louvre. Et il y avait des hommes trafic qui faisaient venir les camions les uns après les autres. Donc ça, c'était une partie du brief. Ensuite, donc ça c'était les questions, je vous laisse lire les contraintes urbanistiques, c'était de lier, avec un point particulier avec l'église Saint-Eustache, je sais pas où elle est là-haut, où en fait, à un moment donné dans le projet, l'architecte Patrick Berger a souhaité que de la salle d'échange, on puisse voir l'église Saint-Eustache pour enfin s'orienter dans l'espace. Et en fait, pour des raisons de chantier, d'organisation et de sécurité, on n'a pas pu. Mais il voulait en fait que depuis le plus profond de l'enfouissement, on puisse découvrir à travers une ouverture l'église. Et ça n'a pas été possible. Mais c'était exactement pour rétablir en fait les liens entre les différents endroits et reconnecter l'infrastructure aux superstructures. Et donc, voilà. Et donc, maintien de l'activité. Alors, maintien de l'activité veut aussi dire que c'est le maintien de la sécurité incendie. Vous allez savoir un jour, normalement, on ne peut pas enfouir un bâtiment à plus de 8 mètres de profondeur, un ERP, un établissement recevant du public. On n'a pas le droit d'amener du public à plus de 8 mètres de profondeur pour des raisons de sécurité. S'il faut, et donc dans les halles, je vous ai montré tout à l'heure les différents niveaux. Le niveau de référence pour les pompiers a été considéré être la place basse. En fait, quand vous faites un projet, vous pouvez pas être à plus de 8 mètres de profondeur par rapport au rez-de-chaussée. Il faut encore définir ce qu'est le rez-de-chaussée. Donc, ce qu'ils avaient fait à l'époque, c'est qu'ils disaient que le rez-de-chaussée était la place basse au troisième, trois niveaux sous le niveau de la rue. Et donc, c'est des vraies contraintes de sécurité. Et il y avait des tas de tours d'évacuation en cas d'incendie qui ont dû être maintenus pendant tout le chantier et qui, en fait, sortaient en plein milieu du chantier. Et il y avait des portes de sécurité. Et en fait, à un moment donné, à un moment donné, quand vous vous baladiez, quand nous on se baladait dans le centre commercial, ou quand on se baladait dans le chantier, on poussait une porte, on se retrouvait dans le centre commercial. En fait, on était vraiment à quelques centimètres. Il y avait des portes qui permettaient d'aller du centre commercial au chantier et vice versa. Et a priori, personne. Aucun public n'est passé de l'un à l'autre, mais il y a des moments où le public pouvait vraiment passer sur le chantier. C'était pas toujours bloqué parce que c'était des issues de secours, donc il fallait pouvoir évacuer. Donc là, vous avez le programme, donc c'est environ 20 000 m². Voilà, là, c'est les différentes. Alors ça, c'est intéressant, c'est les différents projets du rendu, les différentes équipes d'architectes qui avaient fait le projet. Et ce qui est, et je vais vous montrer ensuite le projet lauréat de Patrick Berger. Mais c'est quelque chose de très intéressant dans l'architecture, c'est que, en tout cas, que moi j'ai constaté sur les grands projets, pas sur les projets traditionnels et raisonnables, mais sur les très grands projets, c'est que vous voyez qu'il y a des projets qui sont assez définis. Donc ça, c'est des projets qui sont assez crédibles en éléments. Et alors, est-ce que ça va, comment ça démarre? Et ça, c'est le projet qui a gagné, le lauréat de Patrick Berger. Et ce qui est très intéressant, c'est moi je l'ai remarqué à plusieurs reprises, c'est que en fait les projets qui gagnent les concours, les grands concours d'architecture, c'est des projets qui ne tiennent pas debout. Et c'était une des critiques des autres équipes quand Patrick Berger a gagné le projet. Donc voilà son projet. Et très justement appelé une forme à l'équilibre. Parce qu'en fait, le titre, une forme à l'équilibre, c'était le challenge pour les ingénieurs. Et c'était vraiment un projet qui était symbolique, évanescent et non précis, non concret. Et ça, c'était vraiment le projet tel que rendu. Avec ça, il y avait une maquette qui était exactement identique, c'est-à-dire complètement, c'était vraiment un geste. Et je vais revenir juste en arrière pour vous montrer. Hop, je vais peut-être aller dessus. Ah oui, c'est ça. Pour vous montrer les différents projets, c'est à peu près, voire c'est le projet le moins défini de tous ceux qui étaient présentés. Oui, celui-ci, excusez-moi, je ne connais pas les différents architectes. Je crois que ça, c'est Mimram. Je ne sais pas. Ça, c'est peut-être Herzog. Mais c'est peut-être écrit dessus. Mais en fait, c'était le projet lauréat, c'était le projet le moins précis. Et j'ai remarqué ça dans pas mal de concours importants sur lesquels j'ai participé. Sur les grands projets comme ça, souvent le concours lauréat, c'est le concours le plus symbolique et le moins concret. Et à mon avis, c'est que le jury est toujours déçu les jurys internationaux pour des grands projets sont toujours déçus à voir des projets trop définis. Parce qu'ils voient déjà le résultat, alors que quand ils voient un projet qui est juste une image, Ils voient tout ce que ça pourrait devenir, ils ne voient pas ce que c'est. Donc il y a vraiment une curiosité vers ce qui va devenir. Pardon ? C'est une SEM, donc c'est un projet public. Ouais. Ma société d'économie mixte, mais c'est un projet public. Et par exemple, le cube de la défense de Spreckelsen, c'était juste un cube, c'était juste un bâtiment cube. On ne savait pas comment il tenait, comment il faisait, etc. Et alors que les autres projets, c'était des bâtiments traditionnels. Et souvent, les projets, la pyramide du Louvre, c'était des éléments très symboliques. Et assez souvent, moi j'ai remarqué quand il y a des projets, souvent en rigolant, quand le projet qu'on fait avec des architectes, on est ingénieur, on fait le concours, quand le projet, il a ni queue ni tête, c'est un détail, c'est un peu comme celui-ci, c'est quelque chose, on ne sait pas comment ça tient debout, etc. On dit, ça, c'est un projet qui va gagner. Parce qu'en fait, il y a une espèce d'inconnu qui fait qu'en fait, le projet interpelle par son potentiel et ne déçoit pas par ses détails. Et c'est très étonnant. Mais ça ne marche pas à tous les coups. C'est-à-dire, ça marche sur les très grands projets urbanistes, très grands. Ça ne marche pas si vous faites le bureau d'un promoteur immobilier de base. Voilà, donc je vais repasser. J'ai regardé. Ouais. Hop. Alors, oui, ça, c'était un peu ce qui est sorti du concours. Vous avez vu le film juste avant. Nous, on est ingénieurs. Et en fait, un jour, on nous dit, zut, on a gagné. Maintenant, il faut le construire. Et donc, vous avez dans le franchissement la grande vague, il y a à peu près 100 mètres de portée. Il y a une espèce de trois couches jaunes, les unes sur les autres, qui ont l'air très fines. Et avec des contraintes sur les bâtiments supports, les contraintes sur l'infrastructure, on le verra peut-être tout à l'heure, mais qui sont très très grandes. Parce qu'on avait, en fait, dans le plat de nouilles, comme je disais tout à l'heure, il y a des points d'appui avec des charges maximales qui ont été déterminées par une étude précédente, qui donnent des charges qui sont sans commune mesure avec l'ouvrage que l'on va mettre dessus. Donc il y a une vraie question de comment on va faire. Et donc c'était lorsqu'on a gagné le concours, on s'est voilà, on s'est demandé comment on va faire pour voir. Donc ça c'était bon, c'est le même, je pense que c'est le même. Ah oui, non, structure. Alors, je vais peut-être essayer, il faudrait, est-ce que je peux l'arrêter? Je vais peut-être essayer de. Je peux l'arrêter. Non, je ne suis pas sûr que je puisse. Ah oui, si, je peux l'arrêter. Je vais l'arrêter là-dessus. Je vais peut-être juste passer un peu en arrière. Hop, hop, hop. Non. J'ai commencé là-dessus. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré l'inclinaison des voies de chemin de fer par rapport en diagonale par rapport au plan masse général. Et en fait, la difficulté de ces inclinaisons de chemin de fer, c'est que vous avez des voies, quand vous prenez le RER à Châtelet, ce RER, il ne peut pas venir cogner les points d'appui. Et donc, en fait, la trame ici est très particulière. Elle fait 13 mètres par 16 mètres parce que la raison, c'est qu'en fait, dessous, à certains endroits, le RER, il passe. Et comme il passe en diagonale, vous ne pouvez pas mettre des poteaux. En fait, si le RER passait droit, entre dans le sens des ici, on pourrait resserrer les poutres et on aurait tout le loisir de mettre des poutres. Mais comme le RER passe en diagonale, ça génère une trame qui est très grande. Une trame normale de bâtiment, c'est 6 par 7. C'est des trames normales de bâtiment. De bâtiments de bureaux, de bâtiments normaux, c'est 6-7 mètres. Les logements, c'est moins. Mais là, en fait, on a des portées de 13 et 16 mètres, c'est-à-dire des très grandes portées. Et si vous calculez la surface de cette trame, c'est-à-dire la charge qui arrive sur un poteau, si vous avez 6 par 7, vous avez 42 mètres carrés. Quand vous avez 16 par 13, vous avez beaucoup plus. Et ça vous avez 4 fois plus. Donc ça fait des charges qui arrivent à chaque point beaucoup plus importantes. Et ça veut aussi dire que la structure que vous mettez a une portée, pour franchir une portée, beaucoup plus importante. Si vous avez une poutre qui va porter 6 mètres, elle va faire 60-80 cm de hauteur, non, plutôt 50-60 cm de hauteur. Si elle va porter 13 mètres, c'est une autre échelle. Et un des problèmes que l'on avait sur ce projet, une des contraintes que l'on avait, qui faisait d'une certaine manière que les concurrents, dans le concours, disaient que le projet n'était pas constructible au départ, c'était avec cette forme diaphane, c'est qu'en fait, on s'était engagé sur une hauteur maximale de la canopée par rapport au bâtiment avoisinant. Il y avait eu un contentieux avec Mangin sur, je vous ai dit tout à l'heure, sur avec les riverains autour qui se plaignaient, et tout l'objectif était de faire un bâtiment qui aille le moins possible écraser les bâtiments alentours en étant trop important. Et donc le bâtiment du projet de Patrick Berger était très réduit en hauteur en ayant des niveaux. Et une des questions qui se posait, c'est comment va-t-on faire pour, dans ces grandes portées, avec ces contraintes de descente de charge, faire une structure qui ne dépasse pas en hauteur la limite alors je me souviens plus de la hauteur par rapport au sol, je vais pas dire de bêtises, mais la limite pour être en deçà des bâtiments avoisinants. Et donc, je vais peut-être faire le film entièrement. La structure principale. Et donc, l'idée, c'était d'avoir, on a mis des grands portiques, donc en charpente métallique, posés sur les poteaux dont on maîtrisait la descente de charge. Et vous voyez que les poteaux, ils ont une forme ici en V. C'est pour aller, en fait, réduire la portée. Si vous avez un poteau qui est en V, en fait, il se rapproche du poteau d'à côté et ça réduit les portées. Voilà. Sur la partie sud, est-ce que je peux le... Sur la partie sud ici, on avait une limite de charge à 400 tonnes par appui, ce qui était extrêmement faible. Là, on avait plutôt 1800 tonnes, des charges plus importantes. Et ici, on avait des charges très, très réduites. Et avec ici, vous voyez des éléments de grande portée sans appui. Parce qu'en fait, on échappait à l'appui. Je vais juste avancer un peu et... Est-ce qu'il est... Ouais. Donc là, on voit à peu près la structure du bâtiment de base. Et là, il y a des éléments particuliers. Vous voyez qu'ici, on a sauté les appuis ici. Parce qu'on est sur une trame orthogonale ici, où on vient faire des bâtiments où là, on se met sur la diagonale de la trame. Et donc là, avec des éléments particuliers, c'est comme le RER, il passe dessous. Ici, on ne peut pas avoir d'appui. Parce que dans certains cas, on avait des appuis qui étaient à proximité ici, sauf que ces appuis, ils passaient exactement entre les voies du RER. Quand vous prenez le RER, vous voyez, il y a des voiles béton, des morceaux de mur entre les deux voies. Et on pourrait s'appuyer dessus, sauf que la descente de charge que l'on amenait était trop importante. Donc, c'est en fait, les semelles de fondation auraient dû être renforcées. Or, on ne pouvait pas aller renforcer les semelles de fondation sans interrompre le trafic du RER. Donc, ce que l'on a fait, c'est que ici et là, on a ponté, on a sauté, en fait, l'appui intermédiaire qui se trouvait au milieu. Et donc, on a mis ce qui s'appelle une poutre virandelle. Donc, c'est une poutre perpendiculaire, orthogonale, pour venir franchir, en fait, cette distance. Et permettre au RER de passer dessous sans qu'on vienne s'appuyer entre les voies du RER. Donc ça, c'était la partie bâtiment. Et après... Et donc, ensuite, dessus, sur ces deux bâtiments, on vient mettre la canopée proprement dite. Et la canopée, donc c'est ce qui va franchir en fait les 100 mètres au milieu, est constituée par un gros caisson qui doit faire 5 mètres de large par 2 mètres de haut, qui fait un grand U qui referme, sur lequel va s'appuyer en fait toutes les poutres transversales qu'on appelle des ventelles, qui vont s'appuyer dessus. Et ces caissons vont être sur des appuis glissants, sur ce qu'on appelle les appuis à peau. C'est-à-dire c'est juste un morceau de métal posé sur un autre avec une surface concave qui va juste s'appuyer sur les bâtiments alentour. Donc ça, c'était les poutres. Je pourrais peut-être dessiner le... je peux dessiner sur le tableau ? Ça passera pas très bien en vidéo, mais... Hop, je vais attendre l'habillage vert, donc je vais peut-être suspendre pour l'instant. Hop. Et donc, en fait, on a les poutres de la canopée, en fait, c'est une poutre simple comme cela. C'est une poutre sur deux appuis simples. Chacune des ventelles, c'est une poutre simple. Mais en fait, une poutre, si vous faites une coupe comme ça, vous allez avoir une poutre avec une membrure haute et une membrure basse. Vous verrez que la membrure haute, vous devez sûrement le savoir déjà, mais la membrure haute est comprimée sur une poutre isostatique, mais une poutre simple. La membrure haute est comprimée, la membrure basse est tendue. Vous le voyez, si vous prenez un morceau de bois que vous cassez sur votre genou, vous allez voir que à l'extérieur, vers l'extérieur de votre genou, le bois, il va avoir des fils qui s'ouvrent. Et à l'intérieur, contre vos genoux, ça va vous pincer la peau. C'est qu'en fait, il y a une membrure comprimée à l'intérieur du rayon de courbure et une membrure tendue à l'extérieur. Et en fait, la canopée, c'est exactement des poutres simples, sauf que la membrure comprimée a été déplacée sur le côté et la membrure tendue a été déplacée de l'autre. Et donc, en fait, c'est une poutre inclinée. Et une poutre inclinée, elle a tendance à avoir ce qu'on appelle un déversement. Elle a envie de s'aplatir, c'est-à-dire la membrure basse va chasser, et ça, c'est, en fait, c'est un flambement par déversement. Et en fait, dans la canopée, on va tendre avec un câble la membrure basse, la membrure haute, elle va être en forme de courbe, vue en plan, et elle va être retenue à ses extrémités. C'est-à-dire que la membrure haute, en plan, elle est arrondie comme ça, tenue sur la poutre périphérique, et donc elle va vouloir aller vers l'arrière, et la membrure basse qui va vouloir chasser dans l'autre sens, elle est retenue par des câbles. Mais peut-être qu'on le représentera après. Oups. Hop. Donc ça, voilà, structure principale, ça repart. Donc je vous ai expliqué le fonctionnement, vous allez le voir peut-être. Donc on refait les appuis à 400 tonnes en rouge en bas, les structures, les bâtiments supports sur le côté. Là, on voit en rouge, c'est les appuis où on va poser les caissons dessus ensuite, enfin, plutôt à l'étage au-dessus. Donc, on va poser les... Donc ça, c'est la poutre d'appui principale. Parce qu'on ne voulait pas avoir une interférence horizontale entre la canopée, la dilatation thermique, par exemple. Quand il y a des variations de température, l'acier se dilate. Et on ne voulait pas qu'il aille tirer sur les bâtiments adjacents. Parce que s'il tire sur les bâtiments adjacents, il va ramener des efforts de compression très importants. On avait des problèmes de descente de charge. Et là, on voit les poutres inclinées qui vont naturellement, dans cet état-là, elles vont basculer. Sauf que pour pas qu'elles basculent, on va rajouter des tirants et des horizontaux que l'on voit ici, qui viennent reprendre le basculement de la membrure basse. Et donc ça, on voit une coupe. Donc on voit, vous voyez qu'elles sont très très plates. Donc l'effort de basculement est très important. Et en fait, tous ces tirants arrivent au bout du fer à cheval pour reprendre la tension. Et ensuite, là-dessus, il y a un habillage où là, on avait un problème de géométrie. C'est que la forme de la canopée, elle a une géométrie non développable. Et donc, il y avait un vrai problème de comment faire une géométrie contrôlée avec des déformations sur un ouvrage qui a une forme pas du tout développable. Et donc, c'est là où Patrick Berger a eu l'image du tatou. Donc, c'est le pangolin qui est devenu à la mode. Et où il y avait des écailles. En fait, l'idée, c'est d'avoir des écailles qui se superposent. Donc, c'est l'image que vous voyez sur la canopée avec des écailles. Mais le très grand avantage pour l'ingénieur concepteur de la façade, qui est Arcora, c'est que ces écailles, en fait, permettent de régler un problème géométrique. En fait, lorsqu'il y a des choix architecturaux, il faut toujours les confronter avec de la géométrie. Alors, je vais peut-être faire une anecdote. Au début du projet, quand on a commencé à réfléchir sur le projet, l'architecte voulait que l'on définisse donc ça, c'est les problèmes de calpinage de verre, donc c'est exactement ça. L'architecte voulait que la canopée soit faite dans un matériau qui soit nouveau, léger, translucide, et pérenne. Donc on lui a dit, c'est du verre. Il a commencé à dire, non, non, je ne veux pas du verre, je veux un matériau nouveau. Donc on a fait des recherches. On a pris un ingénieur spécialisé en matériaux, qui faisait des matériaux composites, etc., un type très intéressant. Et en fait, on a fait des recherches. Donc, il fallait un matériau inerte, donc il n'y a pas grand-chose. Et le seul élément que l'on avait trouvé qui correspondait à ça était de la mousse expansée de verre. C'est-à-dire, on prenait du verre et on fait des sous-marins comme ça. Et on fait une extrusion de billes de verre. Et ça fait une sorte de mousse translucide, très légère, etc. Donc on a été voir à Zurich, à l'université ETH, des spécialistes qui faisaient ça dans les départements matériaux. Et donc ils étaient super emballés par l'idée ils avaient inventé un matériau qui avait une densité de 0,7, donc 700 kg par mètre cube, qui était très solide, c'était une émulsion de verre, comme si vous prenez de la mousse à raser, vous appuyez sur le bouton, il y a de la mousse qui sort, et en fait ce qui sort, c'est du verre qui devient comme de la mousse. Et en fait, donc on a discuté avec eux pendant toute l'après-midi sur comment le fabriquer, comment ça se faisait, etc. Et à un moment donné, ils nous ont amené un échantillon, ils nous ont fait attendre toute l'après-midi pour nous montrer l'échantillon, et ils sont venus avec un truc tout petit comme ça. Et donc on a dit, mais nous on a besoin de 20 000 m². Et en fait, eux, ils faisaient des inserts pour les dents. Et donc, en fait, on avait trouvé le matériau, mais on ne savait pas comment le fabriquer. Et en fait, on est revenu voir Patrick Berger, on a cherché, et à la fin, on a fait... la canopée est devenue en verre. Est-ce que c'est fini? Ah oui, donc il faut peut-être continuer. Alors. Pardon, on ne va pas le passer en boucle. Et donc, au niveau de la structure, il fallait vraiment gérer les descentes de charge et les poussées générales pour ne surtout pas dépasser les limites de charge sur les porteurs existants. Donc cela étant dit, on a dû renforcer certains poteaux à l'intérieur du centre commercial parce qu'on n'arrivait pas à passer les efforts. Donc des grandes trames. Oups, pardon. On a liaisonné les pieds de poteau pour limiter en fait les poussées horizontales, parce qu'en fait les planchers béton existants des halles sont des planchers post-contraints, donc c'est avec de la pré-contrainte par post-tension, fait dans les années 70. En fait, on n'avait aucun contrôle sur où étaient passés les efforts depuis 40 ans. Parce que quand vous faites de la pré-contrainte par post-tension ou de la pré-contrainte, vous savez ce que c'est la pré-contrainte? Oui? Non? Vous allez l'apprendre. Mais si vous faites une poutre en béton armé, vous imaginez une poutre en béton armé, le béton est résistant en compression, il n'est pas résistant en traction. La résistance du béton, c'est de, on va dire, 35 mégapascals en compression. Et c'est de 3,5 mégapascals en traction. Donc, en fait, une poutre en béton non armé, si vous le fabriquez, comme si vous fabriquez... En fait, le béton armé, c'est comme du plâtre. C'est-à-dire que si le plâtre, on en a plus manipulé. C'est-à-dire qu'en compression, c'est très résistant. Vous pouvez, sur un truc en plâtre, vous pouvez taper, ça va. Mais si un truc en plâtre, vous pouvez le casser. Et donc le béton, pour qu'il fonctionne correctement, la partie comprimée, c'est le béton, et la partie tendue, on va mettre de l'acier, des armatures en acier, qui vont reprendre la traction. Et c'est la jonction entre la partie tendue et la partie comprimée qui fait le béton armé et qui fait que la poutre fonctionne. Mais quand vous faites ça, je vais refaire un dessin, lorsque vous faites ça, la partie comprimée, le béton... pour que les aciers se mettent en traction, les aciers qui sont en partie basse de la poutre se mettent en traction, il faut que le béton se déforme. Et donc le béton armé va fissurer en partie basse, toujours, et les armatures vont se mettre en tension, il va y avoir un déplacement, et en partie haute, le béton va être comprimé. Je vais juste vous faire un croquis. Donc si vous avez une poutre qui est comme ça, Vous mettez la poutre sur deux appuis. Non, c'est juste une poutre sur deux appuis. Vous appuyez dessus. En fait, naturellement, ça va être tendu en partie basse, exactement comme mon exemple du bâton tout à l'heure. Ça va être comprimé en partie haute. Vous voyez que la poutre, elle va vouloir se tourner comme ça. Donc, en fait, ici, il va y avoir un allongement des fibres en partie basse et un raccourcissement des fibres en partie haute. Mais comme le béton naturellement ne résiste pas en traction, en partie basse, il va y avoir des fissures. Le béton, il va fissurer en partie basse parce que il ne résiste pas à la traction. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'autres couleurs, à ce moment-là, il faut mettre des armatures en partie basse. Et c'est les armatures qui vont reprendre la traction. Mais quand vous faites ça, la partie de la poutre qui travaille, la partie qui est comprimée, c'est uniquement la partie non fissurée. Parce que la partie fissurée, en fait, comme elle est fissurée, le béton n'est pas continu, donc il ne va pas travailler. Donc quand vous avez une poutre en béton armé traditionnel, excusez-moi, il n'y a que la partie haute qui reste en compression. Le reste du béton ne sert à rien, il ne sert que à envelopper et tenir à distance l'acier qui est en partie basse. Et donc, et ça pèse très lourd. Et donc, le principe de béton précontraint, qui a été inventé par Freycinet, qui a déposé un brevet au début du XXe siècle, consiste à prendre ces tirants en partie basse, les aciers en partie basse, et de tirer dessus, de manière à refermer les fissures du béton, parce qu'on comprime le béton en partie, le béton qui est tendu, on le recomprime, et ce qui fait qu'à ce moment-là, la partie du béton qui va travailler va être plus importante, parce qu'on va tirer dessus. De la même façon que si vous prenez des livres dans votre bibliothèque, et vous sortez les livres avec la main, vous devez les comprimer pour pas que les livres tombent, et c'est en comprimant les livres que vous avez, en fait, vous recréez une section homogène de l'ensemble de vos livres. Et donc ça, c'est le principe du béton précontraint. Ça permet de faire des structures beaucoup plus optimisées au niveau matière et beaucoup plus donc économiques et beaucoup plus intéressantes. Les halles, toutes les halles, donc il y a des dalles partout, ont été conçues en béton précontraint par post-tension, donc en béton comme le dessin que j'ai fait là. Et lorsque vous faites ça, vous tirez donc vous tirez avec des torons, vous tirez sur des câbles de manière très importante, et vous allez en fait comprimer la structure de toutes parts. Et quand vous avez une structure comme la structure des halles qui doit faire 140 mètres par 140 mètres, et vous tirez dessus dans les deux directions, à un moment donné, on ne sait plus où partent les efforts. Quand sur le dessin que j'ai fait au tableau, vous avez juste une poutre. On tire dans une seule direction et on sait que l'on comprime. Mais quand vous commencez à le faire sur une plaque rectangulaire, quand vous mettez des câbles dans un sens, des câbles dans l'autre, à un moment donné, si vous savez pas vraiment où partent les efforts. Parce qu'ils partent dans les parois moulées, dans les murs contre, ils partent dans la terre, ils partent dans, il y a ce qu'on appelle des paires de précontraintes. Et il y a une diffusion de la précontrainte dont on ne sait pas vraiment où ça part. Et nous, sur le projet des Halles, on savait pas, on avait les plans de ferraillage et le plan de précontraint de l'époque, mais on ne savait pas du tout quel était l'état actuel. Donc pour cette raison, on ne connaissait pas vraiment le comportement horizontal des plaques de béton, et donc on a liaisonné tous les pieds de poteau, comme c'est représenté là, de manière à ce que l'ensemble de la structure que l'on mette dessus ait un comportement monolithique, et transfère de manière uniforme les efforts devant, ou les efforts horizontaux, aux plaques qui étaient construites, sans nécessairement appuyer plus d'un côté et de l'autre, pour ne pas perturber, en fait, le fonctionnement général du support existant par rapport à des phénomènes. Donc on a vraiment joué pour avoir une maîtrise, une interférence la plus réduite par rapport à un existant que l'on maîtrisait que partiellement. Oui. Alors peut-être qu'on le verrait tout à l'heure, mais en fait, de nouveau, mais en fait, dessus, on a mis il y a un grand fer à cheval dessus. Et en fait, ce fer à cheval, il est sur des appuis glissants. Il est indépendant des bâtiments. Il glisse totalement. Et c'était pour ne pas, justement, amener des efforts exactement les mêmes. Des efforts, par exemple, la dilatation de l'acier. Lorsqu'on chauffe de l'acier, il gonfle ou il se rétracte. Et pour une variation de plus ou moins 30 degrés, ce qui est ce que l'on prend à Paris dans les Eurocodes, la variation est à peu près de 0,3 mm par mètre. C'est-à-dire que plus ou moins, si vous prenez un morceau d'acier et vous le chauffez de 30 degrés, il va s'allonger de 0,3 mm par mètre. Donc si vous avez 100 mètres, il va s'allonger de, c'est à vous de faire le calcul, 3 ou 30 cm, je ne sais pas, 100 fois 0,3 mm. Et donc ces déformations, s'il est bloqué sur des bâtiments qui sont mis sur le béton, qui eux ne bougent pas, vous aurez cette déformation, s'il est ancré, il va tirer la tête des bâtiments d'autant, et comme c'est des bâtiments qui sont quand même, c'est des bâtiments, c'est relativement rigide, il va venir comprimer et tendre, ou l'inverse, les poteaux de manière inconsidérée. Donc c'est pour cette raison qu'on l'a mis sur des appuis glissants, avec des points fixes, alors peut-être qu'on le verra après, il y a bien sûr des points fixes, qu'on appelle des points fixes isostatiques, c'est-à-dire qu'on va bloquer dans le sens, donc si là on a un repère X, Y, Z, on va bien sûr, tout le caisson il est posé en Z sur tous les appuis, et il va être bloqué en X, Y en un endroit, et il va être bloqué en X ou en Y ailleurs. De manière à ce que le bâtiment, la poutre caisson et la canopée ne puissent pas partir, elle est tenue quelque part, mais que le bâtiment qui la supporte puisse bouger. Elle a un point fixe et un point guide. Mais ça peut-être qu'on le verra un peu plus tard. Donc ensuite, on verra tout à l'heure, il y aura sûrement une image. Ensuite, pour réduire la portée, parce qu'on avait, donc c'est 11 et 13, moi j'ai plus en tête si c'était 11 et 13 ou 11 et 16, je ne sais plus. Voilà, 11 et 16, la portée. Pour réduire la portée, on a aussi fait ces poteaux en V qui, de fait, réduisent la portée. Et ensuite, on a mis une suspente pour réduire de nouveau la portée entre bâtiments. Donc si là, on avait 16 mètres, on retrouvait des portées de l'ordre de 8 mètres pour le bâtiment en le suspendant par l'extérieur. Ce qui permet de retrouver une hauteur de poutre acceptable au vu du gabarit général, de la hauteur générale qui nous était donnée. Alors maintenant, le projet de franchissement. Donc, il y avait des contraintes. Oui, une autre contrainte, c'était, je vous ai dit tout à l'heure que le niveau bas, c'était le niveau de référence pour les moins 8 mètres. Ça veut dire que c'était considéré comme un niveau extérieur, comme la rue extérieure. Comme ici, le niveau de référence ici, ça doit être le sommet, le parking, ça doit être le niveau pour les pompiers de référence. Là, on est à moins 4 mètres, peut-être je suis à moins 4 mètres. Et donc, le niveau de référence, c'est le niveau de la rue, c'est le niveau du camion-pompier, on dit. Et donc, pour que le niveau du patio soit le niveau extérieur, il fallait que le patio, c'est-à-dire le centre de la canopée, soit considéré à l'air libre. Si jamais on le couvrait totalement, c'était considéré comme enfoui. Et en fait, comme on était à plus de 8 mètres, le centre commercial ne pouvait pas opérer. C'est-à-dire que les pompiers allaient interdire d'utiliser ce centre commercial. Et donc, pour que ce système fonctionne, il fallait que le patio soit considéré à l'air libre. Et ça voulait dire que l'ensemble des ventelles du patio, que tout l'ensemble de la structure qui couvrait le patio, soit considéré une structure extérieure. Et donc, on a dû démontrer qu'on était bien à l'extérieur, qu'on n'était pas à l'intérieur. Avec une contrainte, bien sûr, qu'il faut que quand il pleut, il ne pleuve pas à l'intérieur. Et donc, voici. Donc, les contraintes, c'était les efforts sur l'existant. Je vous en ai parlé. Le désenfumage du patio. Et surtout, la construction pendant le forum en activité, où il ne fallait pas qu'il perde un centime pendant le travail. Donc, la structure de la canopée, donc c'est une structure autostable sur la poutre périphérique extérieure. Donc tous les efforts de traction que j'ai dessinés au tableau en partie basse, elles sont ramenées à l'arrière de cette poutre caisson. Et vous voyez là la compression en partie haute, la tension en partie basse. Et si on le voit en voilà ici, c'est exactement ça, la tension en partie basse, compression en partie haute. Et en coupe, les poutres, alors c'est assez compliqué à voir parce que vous voyez que les poutres sont couchées dans les deux directions, Donc là, on voit bien un élément ici. En fait, là, elles vont en fait avoir envie de chasser horizontalement. Donc ce point va partir vers l'avant et celui-ci vers l'arrière et tirer sur l'ensemble des ventelles. Et tout ça pour avoir un système, donc là, de poutres en forme de poisson qui permettent l'évacuation du désenfumage, si jamais il y a un incendie, pour être considéré à ciel ouvert. Donc ça, c'était les montants des structures, les méridiens, donc ce qu'on appelait méridiens, donc c'est les tirants supérieurs ou inférieurs qui reprennent le basculement des ventelles. Et la poutre caisson qui ferme l'ensemble des efforts. Donc ça, c'était le projet architectural au départ. Il y avait trois différentes feuilles et c'est devenu en fait les trois niveaux d'étage des bâtiments. Ça, c'était les recherches de géométrie sur les écailles de verre et les recherches pour arriver en fait à gérer cette géométrie complexe. En fait, quand vous avez une géométrie qui a des axes de révolution, vous pouvez mettre des panneaux de verre et les panneaux de verre se touchent et se ferment correctement. Quand vous avez une géométrie aléatoire, l'approche à avoir de l'ingénieur façadier ou de l'architecte pour tapisser son ouvrage qui a une forme bizarroïde avec des surfaces planes est beaucoup plus complexe. Ça donnait lieu d'ailleurs à un moment donné, mais maintenant c'est du passé, mais à un moment donné avec Zaha Hadid, au début, il y avait ce que les ingénieurs appelaient la rhino-architecture. Vous connaissez Rhinocéros, le logiciel? En fait, dans Rhinocéros, vous prenez une patate, vous faites ce que vous voulez. Et donc, bon, maintenant, les ingénieurs se sont adaptés, ou les architectes l'industrie s'est adaptée à cette architecture. On a numérisé les éléments. Mais au départ, par exemple, j'avais une amie qui était ingénieure de Zaha Hadid chez Arup. Et en fait, elle lui présentait un patatoïde de rhinocéros et elle disait c'est couvert de verre. Et en fait, il fallait résoudre le problème de comment on allait fabriquer le verre pour couvrir cette forme qui n'est pas une forme développable, qui n'est pas une forme avec des rayons de courbure. Et en fait, il y a un vrai problème technique d'arriver à créer une structure qui va envelopper cette pièce avec des joints propres. Et elle avait en particulier travaillé sur un des premiers projets de Zaha Hadid, c'était un téléphérique en Autriche. Et en fait, ce que racontait l'ingénieur, c'est qu'en fait, les fabricants cassaient presque un verre sur deux, parce qu'ils essayaient de bomber le verre en trois directions. Et en fait, ils avaient des vrais problèmes de fabrication. Et lorsqu'ils présentaient les verres les uns à côté des autres, le verre qui était trempé, en fait, à chaque fois, il se décollait. Ils avaient vraiment un problème de gérer en fait, le refroidissement des panneaux de verre qui étaient cintrés, bombés dans deux directions, pour qu'ils arrivent à être tangents les uns avec les autres. C'est un vrai casse-tête pour en fait, répondre à cette architecture qui était issue de formes mathématiquement aléatoires, qui sortaient de rhinocéros. Alors qu'avant, avant les années 90, lorsqu'il n'y avait pas rhinocéros à disposition, les architectes et les ingénieurs, on était obligés de travailler en programmant. Et donc, comme on travaillait avec de la programmation, il fallait pouvoir décrire les ouvrages et pouvoir les programmer. Donc forcément, on utilisait des surfaces de révolution. On prenait des morceaux de cône, des morceaux de sphère, des morceaux de tore, etc. Et quand vous prenez un tore, c'est des rayons de courbure assez... Disons, il y a des symétries de révolution qui vous permettent de fabriquer des éléments qui ont toute la même géométrie et se répètent, et on vous arrivez à faire un processus de construction, si on met du verre industriel, qui permet de tapisser un tore de manière propre. Quand vous avez un blob de rhino, vous avez des problèmes. Et donc, c'était les problématiques que l'on a eues sur la canopée qui, en fait, ont été résolues en faisant des écailles. Ce qui était la réponse la plus économique. Parce qu'après, il y a un problème de coût. Si vous avez un panneau de verre qui est avec des découpes carrées et plans, il a un certain prix. Il va coûter 100 euros le mètre carré. Quand vous commencez à faire des découpes biaises, et c'est du verre trempé. C'est-à-dire que le verre trempé... vous savez ce que c'est le verre trempé, non? En fait, quand vous faites du verre trempé, vous faites un verre normal, on appelle recuit, et après, vous le chauffez, vous le refroidissez très vite, ce qui amène des contraintes de compression sur la surface extérieure du verre. Parce que, en gros, la peau du verre se durcit avant le cœur du verre, et le cœur du verre continue à avoir une rétractation, donc il vient comprimer la peau du verre, ce qui fait que votre verre est beaucoup plus solide, parce que si jamais vous faites des rayures sur votre verre trempé, il est en compression, donc il va se refermer. Et tant que vous ne faites pas des rayures trop profondes qui pénètrent dans la fibre tendue, votre verre, il est très solide. Donc les verres trempés sont très solides. Par contre, c'est un processus qui nécessite de faire un traitement thermique particulier, la trempe. Et quand vous avez des découpes de verre particulières, vous devez interrompre votre processus industriel pour découper votre verre avant de le tremper. Parce qu'un verre trempé, si vous commencez à le découper, il explose. Quand vous voyez les... Je vous invite à... si vous êtes gilet jaune, à casser une vitrine, vous verrez que elle se casse en tout petits morceaux si elle est trempée. Si elle n'est pas trempée, elle se casse en grands morceaux et ça devient dangereux. Donc un verre de sécurité, il est trempé. La problématique, c'est que vous ne pouvez pas le découper après l'avoir trempé. Sinon, c'est comme c'est comme la vitrine des gilets jaunes. Et donc, vous devez interrompre le processus de construction pour découper votre verre avant de le tremper. Si vous devez bomber votre verre, faire une courbure, c'est encore plus compliqué, et ainsi de suite. Donc le prix devient de plus en plus cher, de plus en plus important, et votre bâtiment devient de plus en plus inabordable. Et donc là, en l'occurrence, sur tous ces projets publics, la gageure est de faire un projet ambitieux, toujours avec un budget limité. C'est-à-dire que les budgets publics, vous entendez toujours parler des dépassements de budget sur les grands projets emblématiques, mais en général, c'est que le budget initial est un budget très raisonnable, basé sur des ratios par mètre carré, qui n'est pas à l'échelle d'une philharmonie, d'une canopée d'éléments, où il y a en fait des complexités géométriques qui font que le prix unitaire de construction explose, parce qu'il y a des complexités. Et l'objectif, donc, c'est toujours d'essayer de ramener des ambitions et de la rhino-architecture vers des éléments maîtrisés. Et donc, c'était vraiment la gestion du pianotage et du désaffleurement pour gérer, en fait, une économie de projet maîtrisée. Et ensuite, bien sûr, il y a toute la gestion des déformations. C'est que la canopée, c'est quand même des poutres de 100 mètres. Enfin, les plus grandes font 100 mètres de portée. Et donc, il y a des déformations importantes. Et le verre est un élément rigide. Le verre, c'est très rigide. Et donc, vous ne voulez pas que, si vous avez une structure souple recouverte de verre, il faut bien faire attention à ce que ce ne soit pas le verre le plus rigide qui reprenne les efforts de la structure. Il faut qu'il bouge pour que ce soit la structure qui prenne les efforts et pas le verre. Sinon, vous le voyez tout de suite, ça explose. Alors, composition du verre. Voilà, donc, hop, excusez-moi pour le son. Donc là, vous voyez la superposition. Donc, ouais, c'est peut-être un peu fort, mais... Oups, je ne sais pas si on peut arrêter. Non. Oui, c'était les différentes couches mises pour... Alors, ouais. Hop, on peut baisser le son. Hop. Donc le verre, il est... C'est un vitrage de sécurité, toujours. Et donc, c'est un verre feuilleté, c'est-à-dire que on le voit pas très bien en partie haute. C'est deux morceaux de verre collés sur ce qu'on appelle une intercalaire. Donc, c'est un morceau de plastique qui est transparent. Et en fait, c'est un autre. Alors, il y a deux types de verre de sécurité. Soit c'est le verre trempé, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand vous le cassez, il tombe en miettes parce qu'il est trempé. Soit vous faites un vitrage feuilleté, c'est-à-dire vous mettez deux morceaux de verre collés sur un film, et à ce moment-là, quand par exemple le verre anti-balle, il est feuilleté, et à ce moment-là, quand le verre se casse, il est tenu par la membrane centrale et il reste uniforme. Ce que l'on veut jamais, c'est que le verre se casse comme dans un film d'horreur avec un grand triangle qui vient vous couper en deux. Et c'est ce que fait le verre d'habitude s'il n'est pas ni trempé, ni feuilleté. Donc là, le verre est feuilleté, donc vous pouvez marcher sous la canopée sans problème. Il était extra blanc, c'est-à-dire que il est limité en oxyde de fer pour ne pas avoir une couleur verte, comme le verre traditionnel. Et il a une couche de sérigraphie dessus il a un revêtement dessus pour avoir cette forme de vague et cette couleur dessus. Oui, alors on a travaillé avec l'architecte de manière itérative. On avait des réunions toutes les semaines pour voir. Ensuite, bon, ça c'était peut-être, c'est une présentation qui a quelques années. À l'époque, il n'y avait pas de logiciel vraiment 3D. Il y avait Rhinocéros, mais on n'était pas dans le BIM n'existait pas encore. Donc en fait, on a à l'intérieur géré. Donc bien sûr, l'architecture, ça se commence toujours avec des croquis. La fonction de dessin est toujours très importante, y compris pour l'ingénieur. On a eu des échanges avec l'architecte sur des différents moyens de créer l'enveloppe. Donc ça, c'était par exemple sur la gauche, c'était vraiment un croquis préliminaire sur des options de structure. Donc c'est pas du tout ce qui a été retenu. Donc ça, c'était le projet de Zaha Hadid en référence. Donc ça, c'était vraiment avec du verre continu sur les enveloppes. Donc ça n'a pas du tout été retenu. Donc il y a eu plein d'itérations avec l'architecte. Ensuite, il y a eu les spécialistes en verre Arcora qui sont intervenus pour faire des croquis de construction. C'est qu'une fois qu'on a fait le principe, il faut le dérouler pour le construire. Et ensuite, il faut modéliser, donc ça c'était dans Rhinocéros, modéliser chacun des panneaux et gérer la faisabilité de l'ensemble. Et donc c'est une partie de déroulement de la faisabilité pour être sûr que ça fonctionne. Et là, en l'occurrence, pardon si je reviens en arrière, en l'occurrence, déterminer sous les mouvements de structure et tout le calpinage et l'ouverture de chacun des joints pour s'assurer du nombre de panneaux de verre que vous mettez. C'est-à-dire que sur la canopée, s'il y a 20 000 m² et chacun des morceaux de verre fait 1 m², vous pouvez en déduire le nombre de morceaux de verre. Et si chacun des morceaux de verre est différent, le prix va devenir astronomique. Donc à un moment donné, il faut ordonnancer, il faut mettre de l'ordre dans tout ça et limiter le nombre de panneaux de verre, savoir. Et très souvent, quand on fait ça, il faut jouer sur les jeux entre les panneaux de verre pour savoir limiter le nombre de panneaux de verre au minimum. Si au lieu d'avoir 20 000 panneaux de verre différents, vous en avez 50, à ce moment-là, où il y a 50, où chacun des 50, vous fabriquez de 100 à 500 pièces identiques, le prix baisse. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le budget du maître d'ouvrage, c'est un budget d'un bâtiment traditionnel. Ce n'est pas un budget avec 20 000 morceaux de verre tous différents. Donc il y a vraiment un travail d'ingénieur, de réflexion, donc ça c'est des mathématiques, pour limiter le nombre de panneaux différents. Donc aujourd'hui c'est fait avec des outils numériques. Avant ça se faisait avec des bâtiments, avec des formules mathématiques et des bâtiments qui étaient plus maîtrisés mathématiquement. Là on ne maîtrise rien mathématiquement sur la canopée. Hein. Enfin, c'est la grande différence, c'est qu'avec Rhinocéros, si vous prenez des livres sur les coques, toutes les coques des années 60, ils avaient des formules mathématiques, c'était des hyperboloïdes, etc. Et donc il y avait une formule mathématique qui permettait de maîtriser la géométrie. Sur la canopée, il n'y a aucune maîtrise. C'est un blob rhinocéros qui a été décrit et ensuite on adapte une géométrie à une forme sous-jacente qui est déterminée par... En fait, c'est des splines en 3D de rhinocéros. Mais c'est des équations qui ne sont même pas maîtrisées. Je m'explique. L'ingénieur ou l'architecte ne maîtrise pas la formule de l'équation. Alors qu'auparavant, on disait on a un tore de rayon de temps avec un centre placé à tel endroit, etc. Donc il y avait une description géométrique exacte, mathématique de l'ensemble. Là, ce qu'on a donné à l'entreprise, c'est un modèle numérique. Et ensuite, sur la canopée, on a fait ce qui aujourd'hui en BIM se fait traditionnellement, c'est que chacun des éléments pouvait être extrait pour en déterminer les caractéristiques pour la fabrication. Oups, ah, j'ai peut-être été trop vite. Oui, c'est ça. C'est, on a sorti de chaque élément, on pouvait sortir le calepinage et l'élément. Donc, ça c'était après, c'était dans le travail. Sur des projets comme ça, on travaille très souvent avec l'architecte en cellule intégrée, c'est-à-dire qu'on va travailler au même endroit. Donc on a été travailler au hall dans un espace pendant pendant une partie des études, toute la fin des études et pendant tout le chantier. Et on a fait de la simulation. Donc les simulations, c'était l'orientation des ventelles. Donc on ne savait pas au début dans quel sens on mettait les ventelles. Donc c'est vers l'est ou vers l'ouest. Et on a fait des simulations de vent avec ce qu'on appelle de la CFD, de la Computer Fluid Dynamics. Donc on a simulé des incendies et du vent pour voir comment quelle était la meilleure orientation des ventelles. Les ventelles, c'était la toiture, pour faire un désenfumage le plus efficace possible. Et on voyait ici en partie haute avec les vents dominants pour savoir quelle était la meilleure manière de faire passer le vent à travers la canopée. Donc là, on voit un zoom en partie basse, un zoom sur les ventelles dans un sens ou les ventelles dans l'autre avec le comportement face au vent. Donc on a optimisé la structure ici. Donc c'était divers projets de structure. Donc ça, c'est toujours le travail de l'ingénieur. Par rapport à un dessin architecte, ensuite, il faut rendre le dessin intelligent. Donc c'est pas que le dessin de l'architecte n'est pas intelligent, il est sensible et intelligent. Souvent, les architectes, ils ont une meilleure connaissance précise de structure que les ingénieurs. Il y a vraiment une connaissance visuelle de la dimension des structures. Moi, je suis toujours impressionné par les architectes qui ont d'expérience. En général, quand il dessine un poteau, il a la bonne taille. Et quand il trouve que les poteaux qu'on lui propose sont trop gros, très souvent, c'est qu'on n'était pas réveillé ce jour-là. Il y a vraiment une intelligence visuelle de l'architecte, mais ensuite, ça ne suffit pas. Il faut que l'ingénieur y mette une logique de fabrication, d'optimisation numérique derrière. Donc il y a ce travail qui était fait sur la mise en pratique du dessin architectural, et surtout avec la... C'est un ouvrage d'art, franchir 100 mètres avec une structure. La modélisation du désenfumage. Donc là, en l'occurrence, c'était... en France, en fait, les règles de désenfumage, c'est des règles forfaitaires. Et de plus en plus, on introduit maintenant ce qui s'appelle l'ingénierie incendie. C'est-à-dire de faire une modélisation de l'incendie. Et pour faire une modélisation, il faut se mettre d'accord, c'est ce qui est le plus compliqué, avec la préfecture, ce qu'on appelle les pompiers, en fait c'est des pompiers, sur les scénarios. Donc là, en l'occurrence, c'était un marché de Noël. Ben, je sais pas, en fait, si on le faisait aujourd'hui, il n'y en aurait plus, mais c'était à l'époque, on avait encore le droit d'aller à un marché de Noël. Et en fait, c'était une baraque de marché de Noël qui se mettait à flamber. Et donc ça, c'était le dégagement de chaleur et le désenfumage de cette cabane du marché de Noël. Donc ça, c'est la canopée. Donc c'est le trou. Donc on était le plus proche possible des ventelles. On faisait flamber dans l'ordinateur, bien sûr. Vous voyez où on est. On pourrait y aller tout à l'heure. Une baraque du marché de Noël, les mêmes baraques que vous voyez, les petites maisons que vous voyez sur les Champs-Élysées. Et on s'assurait qu'il y avait un dégagement du désenfumage et de la chaleur et que la charpente n'allait pas avoir une température excessive. Et que ça allait correctement désenfumer. Parce qu'en fait, si ça ne désenfumait pas, c'est qu'on n'était pas à l'extérieur. Si on n'était pas à l'extérieur, on ne pouvait pas descendre à 8 mètres de profondeur. Donc, il fallait absolument que la fumée s'échappe sans problème. Voilà. Donc ça, c'est des modélisations numériques qui sont de plus en plus courant. Ensuite, on a fait des essais de vent au CSTB. Ils sont pas loin de chez vous. J'espère qu'un jour, vous aurez l'occasion d'aller les visiter. C'est vraiment très intéressant. Et donc, Ça, c'est la maquette d'essai aérodynamique. En fait, c'est une maquette à l'échelle en général au 200e, avec des capteurs ici, des capteurs physiques qui sont là. Il y a des tuyaux, des petits tubes qui vont dans un processeur sous la table et dans une veine, dans un tunnel où ils vont souffler un vent à une vitesse calibrée par rapport à l'échelle du bâtiment. Et on va mesurer les pressions sur la canopée en fonction des vents dominants ou différents vents par incidence en général de 15 degrés et ça détermine les pressions ou dépressions sur la canopée qui permet de dimensionner. Et donc ça c'est la première maquette que l'on a fait au CSTB et ça c'est une deuxième pour analyser le comportement aéroélastique. Donc c'est une maquette à beaucoup plus grande échelle. Donc de 3 ventelles, où là, en fait, physiquement, on va souffler sur les ventelles et le CSTB a vérifié que les ventelles ne se mettaient pas en résonance. Parce que si elles commencent à bouger de plus en plus avec un vent, il y a un comportement, ce qu'on appelle aéroélastique. Donc, ce n'est pas un comportement statique comme le premier essai que l'on fait ici. Là, on regarde juste les pressions sur la toiture. Là, on regarde s'il n'y a pas une corrélation vibratoire entre les turbulences du vent et l'ouvrage. C'est ce qu'on fait sur les ponts habituellement. Mais là, en fait, comme on porte 100 mètres, on est plus proche du pont que d'un bâtiment traditionnel. Et donc, c'était pour s'assurer qu'il n'y avait pas de mise en résonance des ventelles. Vous avez vu, vous connaissez le pont, comment ça s'appelle ? Ah, merde. Non, j'ai oublié, c'est pas grave. Ah oui, on a aussi modélisé en partie centrale de la canopée. On ne savait pas quoi faire de l'eau qui descendait. Donc, finalement, la canopée avait un point bas. Donc, il s'est posé la question de modéliser, de savoir comment évacuer l'eau qui arrivait au bout de la canopée. Donc, on a fait un modèle numérique pour vérifier l'écoulement d'eau avec du vent. Ensuite, une autre ingénierie a fait une étude. A fait un modèle à l'échelle, à une grande échelle pour s'assurer en fait du fonctionnement. Et comme vous voyez, en fait, la limitation du calcul a fait que en fait les modélisations des gouttes d'eau étaient un peu grossières. Donc on a déterminé une surface de contact en fonction de la vitesse du vent et de la vitesse de l'eau. Je ne sais pas si. Ah non. Je vous invite à y aller quand il pleut avec un parapluie. En fait, la réalité, c'est que on a modélisé des gouttes d'eau trop grosses dans le vent. Et en réalité, en fait, il y a tellement de granulométrie de gouttes d'eau qu'à un moment donné, quand vous avez du vent et de la bruine ou des gouttes d'eau petites, le vent amène de toute façon l'eau là où elle doit aller. Mais ça s'appelle la canopée. Donc, à un moment donné, sous la canopée, on est quand même à l'extérieur. Bon, après, ça, c'était les modèles de déformation du bâtiment. Et surtout les modèles dynamiques, je ne sais pas si on le verra après. Donc ça, c'est les déformations du bâtiment aux différents endroits dans le modèle numérique. Vous allez en faire. Et aussi les analyses modales et les analyses dynamiques pour s'assurer en fait que les bâtiments ne vont pas trop être trop souples. Parce qu'on avait des activités de tout type. Il y a des activités avec... Il y a des activités de danse urbaine, donc c'est du hip-hop où les gens sautent. Et en fait, à un moment donné, quand vous devez vous assurer que le bâtiment ne va pas rentrer en résonance quand les gens sautent dessus. Donc c'est ça, c'est les différentes fréquences propres du bâtiment. Fréquence propre, c'est quand vous avez un bâtiment, une structure, comme une règle que vous faites vibrer sur la table, toutes les structures ont ont des fréquences naturelles de vibration. Donc là, dans l'amphithéâtre, le sol, il a une fréquence naturelle de vibration. On l'entend, en fait. Et quand vous sautez, vous le voyez. Et à un moment donné, il faut s'assurer que ces fréquences de vibration ne vont pas rentrer en résonance avec l'usage qui en est fait. Si jamais c'est le cas, votre sol va vibrer de plus en plus. Et ça va devenir... Il va y avoir un seuil d'inconfort pour les gens qui sont dessus. Comme le bâtiment, il est amorti, ça, normalement, il y a un amortissement, donc le bâtiment, il ne va pas s'écrouler. Si jamais l'amortissement n'existe pas, ce qui peut arriver sur des passerelles, la structure va rentrer en résonance de plus en plus fort jusqu'à s'effondrer. C'est pour ça que les chasseurs alpins ne marchent pas au pas sur les ponts. Et c'est pour ça que si vous allez sur certaines passerelles, vous allez voir des capteurs de vibrations pour s'assurer des vibrations de la passerelle quand il y a le public qui va dessus. Donc là, c'est pour s'assurer surtout le confort par rapport à l'usage qu'on a fait. Oui, bon, ça c'est un film juste de si ça part des vibrations. C'est peut-être, je vais passer. Bon, c'est pas. Voilà, bon, c'est pas. C'est juste une image des mouvements du bâtiment. Lors de la construction, il a fallu contrôler ce qu'on appelle monitoring, c'est un très beau mot français, contrôler la géométrie de l'ouvrage au fur et à mesure qu'on construit, et contrôler aussi la fiabilité, c'est-à-dire la fiabilité en structure, c'est la capacité de l'ouvrage à rester debout quand il y a des éléments qui ont été démolis. En fait, ce que l'on veut pas, ce qu'il ne faut pas, c'est que quand il y a la ruine, donc la démolition, la ruine d'un élément secondaire, vous ne voulez pas que l'élément principal s'effondre. En fait, vous ne voulez pas qu'on enlève juste une épingle à cheveux et que la canopée se casse la gueule. Et en fait, c'est tout à fait possible, quand vous avez une structure, de concevoir une structure qui ne soit pas robuste, c'est-à-dire une structure où vous avez un détail où en fait un élément secondaire va entraîner la ruine de l'élément général. Donc c'était inclus dans les normes anglaises depuis très longtemps, les règles BS, et l'origine de ce projet, c'était un bâtiment, je crois, qui s'appelle Ronan Point, où c'était un bâtiment en structure préfabriquée de béton, donc c'était un DHLM, et il y a eu une explosion de gaz au rez-de-chaussée, juste un truc basique, quelqu'un qui a raté son suicide, non, c'était pas ça, mais c'était juste une explosion de gaz, et en fait, le mur préfabriqué de l'ensemble du bâtiment a explosé, est parti à l'extérieur, et en fait, ce mur préfabriqué était juste tenu par des petits goujons au mur du dessus. Ce n'était pas un mur coulé en place. Donc, il pouvait latéralement, il n'était pas tenu, il a pu partir. Et tout l'immeuble, tout l'angle de l'immeuble s'est effondré parce qu'il y avait juste un petit goujon qui n'avait pas tenu quand quelqu'un avait juste eu une petite explosion de gaz chez soi. Et donc, l'immeuble était tombé dû à un accident mineur, si on peut dire. Et en fait, ça donnait lieu dans les règles britanniques à la robustesse et la fiabilité. Et maintenant, dans les Eurocodes, c'est tout à fait décrit et quantifié. Ça n'existait pas dans les règlements français de bâtiments jusqu'aux Eurocodes. Et donc, c'est analyser la tenue du bâtiment. Là, en l'occurrence, s'il y a un tyran, les tyrans qui reprennent les poutres, qui vient à disparaître pour une raison ou pour une autre, il ne faut pas que l'ensemble de la canopée s'effondre. Et voilà. Donc on a dû renforcer certains poteaux porteurs parce qu'on avait une limite de charge importante. Oups, voilà. Donc ça c'était le processus de renforcement. Donc on les a gainés par l'extérieur. Donc vous voyez en gris le poteau initial et en rouge les renforts sur les différents niveaux. Donc ça c'était un renfort que l'on avait fait sous le bâtiment. On a aussi changé changer certains appuis. Il y avait beaucoup d'appuis à peau comme ça. Comme les halles, tout était précontraint par post-tension, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc je vous ai expliqué qu'il y avait des pertes de précontraintes. C'est qu'on tire sur le bâtiment, le béton va rétrécir et l'ensemble va bouger lié au câble de précontraintes. Et comme à l'époque, ils ne savaient pas non plus, comme nous, où allaient partir ces efforts, ils ont mis en fait des appuis glissants entre chaque niveau, c'est-à-dire tous les un ou deux niveaux. Ils mettaient des appuis glissants pour qu'une dalle glisse par rapport à l'autre, pour régler ces problèmes de perte de précontraintes ou de diffusion de précontraintes. Et donc, on a dû soulever les bâtiments pour mettre des nouveaux appuis, parce que les appuis de l'époque étaient arrivés à maturité. On avait aussi renforcé les têtes de poteaux, donc ça, c'est ce qu'on appelle un frettage. On avait mis des barres pour serrer les têtes de poteau pour qu'ils soient capables de reprendre les efforts nouveaux qui étaient appliqués. Et aussi, toutes les phases transitoires, c'est lors de la fabrication. Quand vous construisez en fait votre bâtiment, vous allez voir, quand vous faites des calculs, vous avez un bâtiment complet dans votre ordinateur. Mais à un moment donné, ce qui peut conditionner votre bâtiment, c'est la manière dont vous le construisez, progressive. Et donc, il a fallu faire des simulations de construction de la canopée pour la fabrication. Donc ça, c'était ça, c'est tout l'ensemble des escaliers de secours. Vous voyez, c'est l'ancien bâtiment, l'ancien forum de Villeurval qui va être après démoli. Là, c'est les sorties de secours. Vous voyez la quantité de sorties de secours qu'il fallait préserver. Ça, c'est les photos du chantier avec les premiers portiques qui arrivent. L'ouvrage qui était monté, et chacune de ces pièces venait en camion, était stockée devant le Louvre. Le camion était stocké. Il attendait le feu vert pour venir en fonction de la disposition des camions qui arrivaient, et il venait l'un après l'autre pour que les pièces soient levées au fur et à mesure. Donc là, vous voyez le début du caisson latéral. Donc on peut marcher dedans. Il fait, je crois, 2 mètres de hauteur et 5 mètres de large. Et il est posé sur des appuis glissants là sur toute la longueur. Et la mise en place là, c'est les poutres principales qui sont soudées en continuité sur place sur le chantier. Et bon, ça c'est la pose des montants. Oups. Voilà, donc c'est différentes photos de chantier, de la mise en œuvre du verre. Et voilà, donc vous voyez en fait là en partie haute, on va aller le voir sur place tout à l'heure, mais la portée en fait de cet ouvrage-là. Et pendant que tous ces travaux étaient faits, dessous dans la salle d'échange, vous verrez quand on sera sur place, la dalle basse que l'on voyait tout à l'heure où il y avait la rampe, etc., la dalle basse, elle fait 15 cm d'épaisseur. Elle est une dalle pré-contrainte, pareil comme les autres, elle fait 15 cm d'épaisseur, et ça veut dire que vous faites tomber n'importe lequel de ces éléments sur la dalle, il va traverser la dalle sans problème. 15 cm, ça ne résiste à rien. Donc en fait, l'entreprise, on a dû construire un platelage, des constructions ici totales, complètes, pour protéger en fait et faire un plateau de travail qui protège tout ce qui se passait au-dessous. On a eu de la chance d'avoir aucun problème, sauf quand on a retiré du béton en trop et on s'est retrouvé chez H&M avec le marteau piqueur. Et on s'en est vite rendu compte. Hein. Voilà. Et donc là, bon, c'est les photos de la construction au fur et à mesure de la. Vous voyez le verre qui est partiellement posé, les poutres et les éléments de structure. Et on voit bien la poutre caisson autour là. Donc de mémoire, les bâtiments faisaient à peu près 2000 tonnes de charpente. La structure de la canopée faisait à peu près 2000 tonnes de charpente. La poutre périphérique faisait 2000 tonnes aussi. Parce qu'en fait, c'est vraiment un fer à cheval qui vient reprendre tous les efforts de traction et de compression et l'ensemble de la canopée. Donc ça, c'est l'image pendant le chantier de l'ouvrage. Hop. Voilà, j'ai terminé la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Là, ici. Oui, en tout cas, il est sur un plan. Oui, il est sur le même plan. Oui, c'est un seul plan. Mais en fait, le fer à cheval, même si c'est une poutre qui est très très grosse, elle a une forme rectangulaire, c'est-à-dire qu'elle est relativement souple. Je ne sais pas si on la voit. Hop, je vais passer en arrière. Elle est relativement souple verticalement, c'est-à-dire qu'elle va s'appuyer sur tous les appuis au fur et à mesure. Elle est rigide dans le plan, dans le sens. Elle reprend tous les efforts horizontaux, mais verticalement, elle est rigide et elle s'appuie sur des appuis. À chaque poteau, il y a un appui pour reprendre des efforts verticaux. Pardon ? Le projet, je crois que c'est 150 millions. Je crois que c'est 130 millions. Ouais. Et en fait, le challenge le plus important, c'était pour l'architecte et nous, de gérer la hauteur du gabarit. Tous les gens nous attendaient au tournant parce qu'ils disaient, vous n'y arriverez pas de faire deux niveaux dans ce gabarit avec ces contraintes. Construire au-dessus, vous voyez là en bas, on doit être sur la dalle de 15 cm d'épaisseur, de gérer en fait les flux de camions et la sécurité du chantier et les sorties de secours que l'on voit. Je me souviens plus où elles étaient, mais il y avait des sorties de secours ici partout. Ça, c'est peut-être des sorties de secours. Et en fait, à tout moment, les gens du centre commercial pouvaient débouler dans le chantier, en cas d'incendie, bien sûr. Mais c'était vraiment une gestion très très pointue des flux. Voilà. J'ai parlé d'eux. Ah oui, alors il faut. Alors, est-ce que pardon, je sais pas si on va voir. Peut-être là. En partie basse des ventelles, il y a des petits chaînons horizontaux. Et longitudinalement, dans l'axe, il y a un grand chaînon qui vient du bout vers l'avant, qui va recueillir toute l'eau de ces petits chaînons latéraux. Et amener l'eau tout au bout, et l'eau tout au bout, c'est la modélisation qu'on a fait, va tomber dans l'escalier, elle va tomber sur l'escalier, et l'escalier, en fait, il est ponctuellement, vous le verrez sur place, c'est des caillebotis, et il y a une grande fosse dessous qui récupère l'eau quand il n'y a pas trop de vent. Quand il y a du vent, l'eau, elle va un peu où elle veut. Pardon? La cascade fonctionne très bien. Non, en fait, c'est ça. En fait, le problème qu'on a eu, c'est que l'avant du chaîneau central est plat parce qu'on souhaitait l'architecte et la maîtrise d'œuvre, on souhaitait avoir un rideau d'eau. Et donc la partie avant, et vous allez voir sur place, c'est un rectangle. Sauf que ce rideau d'eau, quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Et quand il y a beaucoup de vent, en fait, le rideau, il est poussé par le vent. Et en fait, le rideau, il va être très fin et ça va faire des petites gouttes. Et avec du vent, elles vont partir. Et si le vent est dans le mauvais sens, si c'est un vent d'ouest, c'est-à-dire le vent général à Paris, et il pleut un peu et ça coule, avec un peu de chance, il pleuvra tout à l'heure, il y avait du vent aujourd'hui. Et en fait, le vent arrive même à arroser l'escalator qui monte. Donc si vous n'avez pas de chance, mais c'est ça la magie de la canopée. Si vous êtes au Brésil, vous marchez dans la canopée, vous pouvez vous faire mouiller. Si au hall, vous montez l'escalator et il pleut un peu ou beaucoup et il y a du vent, vous allez voir comme dans Tintin, vous allez voir la canopée qui vous tombe dessus et vous êtes en train dans l'escalator, vous rapprochez. Donc ça, il y a un côté dramatique. Mise en scène, où vous vous rapprochez de l'eau et vous vous faites arroser quand vous arrivez. Et donc, en fait, je crois qu'à ce moment-là, maintenant, en fait, il y a eu quelques problèmes au début, donc je crois que maintenant, ils arrêtent l'escalator avant que les gens... ils auraient pu distribuer du shampoing en bas de l'escalator, mais ils ont préféré, je crois, l'arrêter. Juste terminer. Ça, c'était lié au fait que le chaînon était très plat. Donc, il y a eu des réflexions et des travaux pour faire un chaînon plus pointu pour concentrer l'eau, pour que quand il y a peu d'eau, l'eau soit concentrée et descende. Moi, j'avais proposé à l'époque de mettre une chaîne, parce que j'ai vécu en Amérique du Sud, où il pleut beaucoup, et en fait, pour les descentes d'eau pluviale, ils ont laissé tomber le fait d'avoir des descentes, ils mettent des chaînes, et l'eau, elle coule le long de la chaîne, elle tient le long de la chaîne, mais en fait, l'architecte souhaitait pas avoir une chaîne à l'extrémité. Et donc, une des solutions consiste, au lieu d'avoir un chaînon plat que l'on verra à l'extérieur, d'avoir un chaînon en V pour concentrer l'eau, pour que l'eau, quand il y a du vent, elle soit concentrée et ait moins tendance à s'envoler. Et il y a eu des études qui ont été faites et je crois que les travaux ne sont pas engagés pour l'instant. Alors, je sais que la poutre principale, ils ont des sections variables. Ici, le tube principal supérieur, il fait à peu près 1 mètre de diamètre, le plus grand. Ce qui, en fait, paraît énorme quand on voit de près, quand on voit ici, ça paraît énorme. Mais quand on voit en perspective la mise en place, donc là, ça paraît grand, mais quand on voit, je ne sais pas où c'était en perspective, c'est à l'échelle de 100 mètres, c'est assez fin. La difficulté que l'on avait architecturalement, c'est qu'on porte 100 mètres et on est à peu près à 15 mètres de hauteur. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes devant la canopée, vous voyez un tube de 1 mètre à 15 mètres, donc il a l'air très grand, alors qu'en fait, c'est un pont qui porte 100 mètres et vous êtes à proximité. Donc, il y a vraiment ce problème ou cette difficulté de perception où vous êtes en fait, vous regardez l'ouvrage dans le sens perpendiculaire à sa portée. Donc on a du mal à percevoir. C'est-à-dire de loin, on voit, si on se met dans le jardin, on voit des arches fines, mais quand on est prêt, on voit un tube assez important parce qu'on est tout proche. Mais vous le verrez tout à l'heure. C'est très intéressant. J'ai travaillé, quand je travaillais chez Arup, et j'ai travaillé donc c'était avec Peter Heiss, on faisait du high-tech, des structures très aériennes, des structures en toile, des structures à câbles. Et donc, au début, j'avais proposé de prendre, que la poutre de rive ici, j'y avais pas pensé, bon, il y avait plusieurs ingénieurs dessus. Hein. Et moi, je pensais qu'au lieu d'avoir la poutre de rive, on prenait les bâtiments comme un immense fer à cheval. C'était les bâtiments qui faisaient fer à cheval. Et qu'entre un bâtiment et l'autre, on allait mettre une poutre poisson de câble. C'est-à-dire qu'en fait, on mettait des câbles vers le haut, des câbles vers le bas. On tirait, on mettait des boutons et on faisait une sorte de structure tridimensionnelle en câble. Vous voyez ce que je veux dire, comment ça fait ? Et que c'était juste des câbles de pont. Et j'avais même fait un dimensionnement. On avait des câbles de 100 mm, de 10 cm de diamètre. Bon, c'est des câbles des haubans de pont. Et on avait une nappe tridimensionnelle avec des boutons entre pour faire les deux. L'ingénieur qui était responsable du projet, parce que moi j'étais responsable des bâtiments, il y avait un ingénieur qui travaillait avec Patrick Berger sur le projet, lui il voulait faire autre chose. Et en fait, pendant toutes les études, j'étais très très frustré par le fait de faire une structure avec des poutres de 1 mètre de diamètre plutôt que faire une structure à câble. Et j'étais vraiment... J'étais pas du tout content contre l'ingénieur, contre Berger. Ben, je m'occupais pas de cette partie-là. En fait, on avait séparé les choses, mais je trouvais que c'était très dommage. J'aurais préféré faire une structure entre guillemets à la Fry Auto légère. Ben, je sais pas si vous connaissez, plutôt que faire une structure que moi je trouvais très grossière. Je voulais faire une structure qui pesait 40 kg par mètre carré, alors que là la structure elle pèse 400 kg par mètre carré. Cela étant dit. Et ça, je l'ai vécu aussi quand j'ai fait le musée du Quai Branly avec Jean Nouvel, la construction, où je trouvais que la charpente était super grossière. Et ce qui est très marrant, alors moi j'ai étudié l'architecture et l'ingénierie, ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, mon côté ingénieur a envie de faire des structures les plus légères possibles. Et j'en voulais à Jean Nouvel, et il n'en a rien à faire de moi, mais j'en voulais en fait à cette structure du Quai Branly que je trouvais très très grossière, la charpente métallique. J'en voulais à Patrick Berger et les ingénieurs faire une structure que je trouvais très grossière. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois, quand c'est construit, le quai Branly et la canopée. Je me rends compte qu'en fait, j'étais complètement moi, comme ingénieur, à côté de la plaque, que je ne voyais que la résistance des matériaux, que l'optimisation des matériaux, de faire le truc le plus léger possible. Alors qu'en fait, l'architecture, c'est pas l'ingénierie, c'est pas être léger en matériaux. Et je l'ai vécu sur... Alors c'est très dur pour un ingénieur de réfléchir comme ça. Je l'ai vécu sur le quai Branly, où en fait, je trouvais que c'était vraiment de gros mastodontes, c'était énorme, c'était des grosses charpentes. Mais en fait, quand j'ai vu le truc fini, où on voyait plus, Jean Nouvel, il a complètement couvert toute la charpente. On voit plus du tout la charpente grossière, on voit juste la sous-face. Et en fait, je voyais qu'en fait, là où je m'énervais contre l'architecture en disant c'est pas du tout respectueux, on aurait pu faire beaucoup plus léger, etc. Qu'en fait, il y a que moi que ça voyait. Et ce qui est important, c'est de voir le côté architectural et plastique de l'élément. Et sur la canopée, j'avais cette impression-là aussi. Mais en fait, quand vous voyez, en fait, il ne faut pas regarder que la structure. Quand vous voyez, en fait, on verra tout à l'heure, mais la vue à l'intérieur, en fait, il faut voir l'architecture. Et c'est, moi, j'ai du mal. Il y a quelques années qui sont passées, donc je suis plus calme que je ne l'étais à un moment donné. Mais c'est comme tous les anciens brigades rouges qui deviennent conservateurs. Au début, quand on est jeune, on a envie que les trucs sont exactement ce qu'on souhaite. Et après, avec le temps, on arrive à prendre du recul. Mais je pense que l'architecture, ça va au-delà de l'ingénierie. Et c'est vraiment très difficile. Et quand vous voyez en fait, il faut voir l'ensemble. Il ne faut pas voir juste la structure. Il faut voir les bâtiments. Il faut voir le calpinage des façades. Il faut voir le. Et c'est vraiment un truc d'ensemble. Et en tout cas, moi, je me suis... Alors, vous êtes plus jeune que moi, donc vous avez le droit d'être en colère. Mais à un moment donné, sur les projets, j'ai toujours du mal en phase d'étude de percevoir l'architecture quand des projets un peu d'ingénierie comme ça. Mais en fin de compte, je me fais le reproche, et je me suis vraiment fait, quand je l'ai vu, je me suis reproché à moi-même de ne pas avoir pu, dans les études... à avoir ce recul architectural et critique et de me concentrer sur le dimensionnement. Ouais. Oui, tout à fait, oui. Oui. C'est-à-dire qu'elle est trop anodine, c'est ça? Non, c'est-à-dire, je ne comprends pas la question, en fait. Non, on a l'impression que c'est un ouvrage lourd, c'est ça? C'est un ouvrage pesant. Oui, oui. Mais aller dans le jardin et ensuite... oui, oui. C'est vrai. Non, c'est vrai. Mais j'ai fait exactement votre cheminement. J'ai fait exactement ça. Mais quand je l'ai vu, à un moment donné, on imagine qu'on puisse faire une structure avec des câbles, comme les structures de RFR, les structures de une toiture en verre posée sur des câbles. Architecturalement, est-ce que ça aurait été mieux? Je ne sais, franchement, je ne suis pas sûr. À un moment donné, ouais, non, tout à fait. Mais d'ailleurs, le projet a été décrié pendant sa construction beaucoup, à la fois sur sa couleur, parce qu'il est aussi très intéressant. C'est que la couleur finale, la couleur finale est la même que la couleur au concours. Ce que je vous ai montré, c'est le film du concours. Et à un moment donné, je pense que l'architecte a été prisonnier de l'image qu'il avait fait au concours. Peut-être que dans son imprimante, il lui manquait une cartouche de cyan. Alors peut-être pas, mais souvent, en fait, ce qui est très intéressant dans l'architecture, c'est de voir, de décrypter, en fait, l'historique de comment se font les choses, parfois dans des projets. il y a des choses qui sont faites et qui sont faites pour des raisons qui n'existent plus, parce que le projet a changé, mais en fait, la conséquence existe toujours. Mais pour revenir à ça, oui, moi, j'ai tendance à être un ingénieur pur, entre guillemets, et en vouloir à Jean Nouvel et à Patrick Berger, etc., parce que ce n'est pas de la belle ingénierie, entre guillemets. Mais en tout cas, je me prends à mon propre... Je suis mon propre juge. Et quand c'est construit, je me récrimine moi-même sur le fait qu'en fait, j'avais raté tout un point de vue, qui est le point de vue de l'architecte. Et même si j'ai fait des études d'architecture, je suis un peu trop ingénieur. Et je crois que c'est une vraie approche de bâtiment. Parce que ce n'est pas un pont, c'est un bâtiment. Et un bâtiment... Alors, je pense que la question légitime, c'est est-ce que le bâtiment gagnerait à avoir une structure à câble? Ça, c'est une bonne question. Et c'est la question qui m'a énervé pendant toutes les études. Mais je ne suis pas sûr que la réponse que je m'appliquais à moi pendant les études soit réellement pertinente quand vous voyez le résultat final. Mais le débat est vraiment ouvert. Et moi, je suis un peu de l'école high-tech avec Peter Rice et Overhoop, etc. Mais à un moment donné, tout n'est pas high-tech. L'architecture, il faut que la lumière tourne autour des choses. Il faut que pour que des structures existent, il faut qu'elles aient un poids pour qu'elles soient visuelles. Faire que des structures transparentes avec des câbles légers, les plus résistants possibles, avec des matériaux les plus légers possibles et les plus en Kevlar, en Dynar, etc., en Dynéma, pour que ce soit très très léger, à un moment donné, vous faites des structures qui n'existent plus. Il faut peut-être à la fois avoir des éléments très pesants. Et donc, c'est vraiment une approche. Voilà. Mais le vrai truc intéressant, c'est que les halles de Vasconi ont été faites en même temps que le centre Pompidou. Et on disait, le centre Pompidou, c'est une usine qui va disparaître. Vous avez tous vu sur YouTube ou dans les archives de Nina les commentaires du public quand ils ont fait le centre Pompidou, où les gens disaient, c'est moche, c'est industriel, il faut le détruire. Ça, de toute façon, dans 5 ans, on l'aura démonté. Heureusement que c'est du high-tech, comme ça, on pourra le démonter facilement. Donc là, on est en train de le refaire. Et on l'opposait, les halles, qui étaient un bâtiment moderne des années 70. Les halles ont disparu. La canopée est venue, le temps dira. Mais je ne sais pas. En fait, la vraie question, c'est est-ce que dans 30 ans, on va démolir la canopée et il y aura toujours le centre Pompidou, ou est-ce que la canopée sera toujours là et aura pris une place? Mais je n'ai pas la réponse. Hein, mais par contre, je sais que l'architecte a un regard que l'ingénieur doit parfois accepter. Vous êtes architecte aussi, vous? Mais vraiment ingénieur dans l'âme. Non, mais c'est... Pardon. Oui. Oui, possible. Oui. C'est vrai que... Non, c'est vrai. Surtout que ça va au-delà. C'est-à-dire que la dimension des tubes, les tubes ne sont pas si épais que ça. L'épaisseur du tube. C'est-à-dire que même le tube qui fait 1 mètre de diamètre, il aurait pu être plus petit. Sans même mettre un câble. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un choix aussi de... Il y a eu un choix de mettre de la massivité. C'est-à-dire que l'architecte et l'ingénieur qui ont conçu les éléments, l'ingénieur chez Ingerop, chez nous, à un moment donné, il n'y a pas eu une optimisation pour avoir l'élément le plus petit possible. Donc il y a eu à un moment donné un choix architectural d'avoir ces proportions, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'était non. Je pense qu'il y a une des choses, c'est que quand vous avez des panneaux de verre qui sont libres, alors j'ai pas, c'est Arcora qui a fait le verre, donc je n'ai pas le détail, mais quand vous avez une feuille de verre traditionnelle recuit, sodocalcique, sans pas du verre blanc, la tranche est verte, vert pétant, parce que la lumière rentre à l'intérieur, il y a des réflexions, et quand elle sort, elle est verte. Et donc je pense que qu'ils ne voulaient pas, c'est que quand on voit tous les panneaux de verre qui sont à bord visibles, qu'on voit du vert, des tranches vertes partout. Ça doit être pour ça. Parce que quand vous avez du vert blanc, il n'y a pas de couleur qui sort. Donc je pense que ça doit être pour ça. Voilà. Ouais. Oui, j'ai aucune idée, mais j'ai déjà pensé, j'ai aucune idée de ce à quoi ressemblerait un tel projet aujourd'hui. Mais quand vous avez vu les différentes images du concours au début, chacun des bâtiments, est, parce que c'est vraiment un endroit très imposant, monstrueusement grand en fait, c'est un pâté de maison, c'est même plusieurs pâtés de maison de Paris, devant Saint-Eustache, il y a vraiment des... Ben Saint-Eustache, c'est une église incroyable. Et donc, c'est un environnement avec la Bourse du Travail. Ben c'est vraiment un environnement qui est très, très particulier. Qu'est-ce que serait un projet aujourd'hui ou un projet demain? Mais c'est vraiment une vraie question. Ouais. Non, vous avez raison. Mais il en est de même pour beaucoup de projets, mais c'est celui-là, oui. À l'époque... non. Ce qui était intéressant, mais on va peut-être y aller après, mais on pourra discuter sur place, parce que c'est... Non, c'est... Ouais. Ce qui était intéressant, c'est qu'à un moment donné, c'est juste une autre anecdote, en cours d'études, c'était avancé, on s'est dit, l'architecte, hein, et nous-mêmes, on s'est dit, zut, qu'est-ce qu'on va faire de l'eau? Parce qu'on a une surface concave, l'eau va descendre. Et donc moi, ingénieur, j'ai proposé qu'il y ait un petit réservoir à l'avant de la canopée, qui se remplissent d'eau, qui a un petit tube qui va en partie basse, qui a un petit moteur qui aspire l'eau, et quand on arrive à faire un siphon, qu'ensuite il y a un système de siphon naturel qui vient aspirer l'eau et qui va vers le bas. Comme si on vidait un réservoir de séparant, le réservoir d'essence. Et l'architecte a dit non, pas de mécanique, il faut que ce soit naturel pour des... Il faut que ce soit naturel, c'est une canopée, c'était déjà l'environnement avant l'environnement, donc pas de moteur, rien. Et donc on a fait la cascade qui tombe. Mais comme, ça c'est en étude, hein. Mais comme c'était très intéressant, on a mis une pompe en bas de la cascade pour remonter l'eau en haut de la canopée, pour qu'il y ait en permanence avoir une fontaine qui va. Et donc en fait, on a mis un moteur. Voilà. Après, mais là, ensuite la nature a fait que, comme la cascade, quand elle tombe et il y a du vent, ça éclabousse les gens, le moteur ne fonctionne pas, pour l'instant. Mais c'est ça, ces processus en fait, de réflexion architecturale. Mais sur place, vous pourrez poser toutes les questions. Je pourrais vous montrer d'autres choses.
Donc on va se retrouver sur place à 17h. Et c'était un débat très intéressant, celui de la fin, parce qu'en effet, quelque chose qu'on aimerait que vous puissiez développer au fil de ces cours, c'est justement forger une vision critique aussi de la chose. Mais la question, peut-être, c'est aussi, avec ces dimensions assez grandes quand même, des bâtiments, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est aussi, si j'ai bien compris, un gabarit en hauteur et en largeur, longueur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit le plus léger possible? Ou pas, non? Enfin, déjà, les dimensions sont assez contraignantes, je trouve. Bon, merci beaucoup et à tout à l'heure.